Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre soirée de la chaire Jean Rodin du Centre Sèvres. Je suis Alain Thomasset, donc titulaire de cette chaire. Et avant de présenter la soirée, je voudrais vous rappeler que la chaire Jean Rodin est soutenue par la Fondation Jean Rodin, dont l'objet est de favoriser des recherches universitaires sur le thème de la charité. Il existe des chaires Jean Rodin dans les différentes facultés catholiques de France, facultés de théologie. Et par ailleurs, la Fondation organise des colloques tous les deux ans sur des sujets variés autour de la charité, dont l'idée est de favoriser des rencontres entre des universitaires, des théologiens et des acteurs de terrain. C'est l'intérêt aussi de ce genre de recherche pour nous. Le dernier colloque portait sur le thème de la diaconie de l'Église. C'est le thème en ce moment, avec la démarche de Diaconia 2013, lancée par les évêques de France. La diaconie de l'Église dans le dialogue entre justice et charité. Et il sera publié dans un numéro des cahiers de l'atelier. Ce qui nous rassemble aujourd'hui autour du thème « Vivre sous le même toit que l'exclu et l'étranger, une expérience spirituelle ?» point d'interrogation, fait suite à notre réflexion de l'an dernier, ceux qui étaient là peut-être s'en souviennent, et qui avait pour thème « Quand la solidarité transforme la paroisse ». Et elle montrait, cette soirée, l'impact de différentes expériences de solidarité sur la vie paroissiale. Ce soir, le thème qui nous occupe est celui de la solidarité vécue avec des personnes exclues ou étrangères par le biais d'une vie en commun pour un temps plus ou moins long sous un même toit. C'est ce qui rassemble différents types d'expériences. Aujourd'hui, des chrétiens et d'autres expérimentent de nouvelles formes d'hospitalité, de vie commune avec des personnes en difficulté. Certains partagent dans un lieu d'hébergement une vie commune avec des personnes ayant vécu à la rue. D'autres accueillent chez eux des demandeurs d'asile, par exemple, que l'État laisse à la rue en attendant de décider de leur sort. À travers cette vie commune, les gestes de tous les jours, quelle expérience peut être vécue de l'Évangile ? Car habiter sous un toit, ce n'est pas simplement un lieu pour dormir. C'est aussi un foyer où on se rencontre pour partager des repas. C'est un lieu d'échange et de convivialité avec d'autres. Comment cette hospitalité peut-elle être source d'une vraie rencontre où le Christ se révèle ? Et il est intéressant de voir qu'en français, à la différence des autres langues, le mot « hôte » vaut pour les deux, pour celui qui accueille comme pour celui qui reçoit. Et je crois que ce n'est pas sans signification. Dans l'accueil, il y a un échange, peut-être qui se renverse à un moment donné, et que l'hôte, on ne sait plus très bien qui c'est, finalement. N'est-ce pas un indice que ce n'est pas toujours à sens unique que l'on accueille, mais que l'on est parfois accueilli par celui que l'on accueille soi-même. Alors pour nous aider dans notre réflexion ce soir, nous avons quatre intervenants. D'abord Pierre Jamais, qui est à ma droite là. Pierre est directeur de Valgiros, ce centre d'hébergement de stabilisation de l'association Aux Captifs la Libération, dans le 15e arrondissement, rue de Vaugirard. Et il nous expliquera de quoi il s'agit exactement. Juste à côté de lui, nous avons Pascal Blaveau, qui est diacre et qui est bénévole de cette association Valgiros, qui habite également là-bas, dans ce centre de stabilisation, et il nous fera part aussi de son expérience. À ma gauche, Isabelle Moulet, elle est coordinatrice du réseau Welcome de l'association JRS, le réseau jésuite de services aux réfugiés, JRS France. Et elle nous expliquera en quoi consiste cette expérience Welcome, je crois qu'il y en a beaucoup dans la salle qui connaissent déjà, d'accueil des réfugiés dans les familles. Et puis nous aurons également Étienne Grieux, donc, qui est jésuite, théologien, professeur de théologie pratique dans cette maison et qui interviendra également comme théologien pour nous aider dans la réflexion. Pierre Jamais et Pascal Blaveau, puis Isabelle Moulet nous présenteront leur expérience, l'expérience qu'ils ont pu vivre, ainsi peut-être que celle d'autres personnes. Et à l'occasion de ces rencontres et de ces lieux de solidarité, voilà, quelle expérience peut-être est faite de l'Évangile elle-même. Étienne Grieux nous aidera ensuite à reprendre ces expériences dans une perspective théologique. Et puis nous aurons, je pense, un bon temps d'échange, voilà, avec vous, avec la salle. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont une expérience de ces vies en commun, sous un même toit, avec des personnes exclues ou étrangères ou qui ont vécu à la rue. Eh bien, ce sera peut-être l'occasion de faire part de votre expérience ou de poser des questions. N'hésitez pas à ce moment-là. Je laisse donc tout de suite la parole à Pierre et Pascal pour leur expérience de Valgiros, donc de l'association aux captifs d'Alibération. Merci d'avance de nous éclairer.
Bonsoir. Donc nous allons parler à deux voix pour présenter Valgiros. Valgiros est une initiative récente dans l'histoire des captifs, puisque le centre a ouvert ses portes en juin 2010, presque 30 ans, après les débuts de l'association Aux captifs, la libération. Un mot bref pour repréciser le sens et l'action de cette association, qui a été fondée par le père Patrick Giros, décédé voici 10 ans. Et je signale d'ailleurs que le dimanche 26 novembre à la paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, il y aura la présentation d'un ouvrage évoquant sa vie. Le propre de cette association est de rencontrer et d'accompagner depuis plus de 30 ans les personnes en situation d'exclusion dans Paris, particulièrement les personnes en situation de prostitution de rue et les personnes à la rue, SDF, et ce sur 5 secteurs. Brièvement, le secteur de la gare du Nord, gare de l'Est, le centre de Paris autour des Halles, centre Beaubourg, 2 centres sur le 16e arrondissement et autour de Nation, Nation et le bois de Vincennes. Valgiros, en termes techniques, c'est un centre d'hébergement de stabilisation, ou pour dire plus simplement, c'est un lieu où l'on donne du temps aux personnes accueillies de pouvoir récupérer, de se reposer, de se soigner, voire de soigner leurs blessures intérieures, ou en tout cas d'être accompagnées afin de retrouver une autonomie la plus large possible. Et le centre est fondé sur une idée somme toute originale qui a été développée par d'autres acteurs, c'est le partage de la vie quotidienne entre des bénévoles, engagés par ailleurs dans une vie professionnelle et sociale, et des personnes en réinsertion. L'objectif, il est à la fois de pallier au manque de chaleur humaine des foyers d'hébergement traditionnels et de créer des liens interpersonnels suffisamment forts, susceptibles de faciliter cette réinsertion et de pouvoir concrétiser le désir de l'association, à savoir donner la priorité à la rencontre et à un accompagnement de la personne dans son intégralité. Que ce ne soit pas simplement un accompagnement social, mais un accompagnement dans le quotidien, voire aussi un accompagnement spirituel. Alors, Valgiros est organisé en 3 unités de vie, comprenant chacune 8 chambres, avec également 3 studios destinés à l'accueil de couples. Le public accueilli est composé de personnes en situation de grande exclusion qui ont été rencontrées par l'association lors des tournées rues ou par des associations partenaires dans le travail de rue. Et ce sont des personnes qui sont soit issues de la précarité, soit de populations migrantes, du monde de la prostitution et présentant des problématiques très variées, avec des troubles aussi du comportement, des addictions, etc. La caractéristique de Valgiros, pour faire en sorte que cette vie en appartement se passe au mieux, se retrouve dans une architecture, très simple, mais qui veut traduire cette recherche d'un lieu de vie à taille humaine. Chaque appartement est indépendant, il dispose d'une cuisine, d'une salle à manger, d'un salon, de chambres, d'espace sanitaire, et tout est fait et ordonné pour que la vie en appartement soit autogérée, entre guillemets, par les résidents, qu'ils soient bénévoles ou accueillis. Les courses et les repas sont pris en charge, et il est important que chaque résident puisse participer et rendre service, que ce soit au niveau de la cuisine, du ménage, de l'entretien. Et au rez-de-chaussée de ce bâtiment, il y a une salle commune pouvant accueillir tous les résidents. Plus concrètement encore, la capacité d'accueil est de 21 personnes, auxquelles se rajoutent 11 bénévoles résidents, dont un couple d'hôtes, Pascal et Chantal, mais ils préciseront. La spécificité du lieu réside donc dans une cohabitation solidaire entre des personnes accueillies, qui viennent de la précarité, grande précarité de l'exclusion, et des bénévoles, afin de partager quotidiennement et concrètement un vivre ensemble. À cela se rajoute une équipe d'intervention sociale qui est composée de moi-même et de 3 travailleurs sociaux avec des stagiaires. Et peut-être encore un dernier mot concernant le financement. La structure d'hébergement est financée intégralement par la DRIL, par un service d'État. Donc cela recouvre le financement du fonctionnement, l'entretien, etc. Et nous avons également une partie plus éducative qui, elle, sera financée par des partenaires privés et principalement la Fondation Notre-Dame et Caritas. Voilà pour la présentation globale de la structure et je laisse la parole à Pascal.
Bonjour. Oui, je voulais préciser effectivement, parce que j'étais présenté comme diacre, bénévole, tout ça est vrai, mais que je suis marié, effectivement, avec Chantal qui est ici dans l'assistance, et que nous habitons à deux à Valgiros en tant que couple d'hôtes. Alors, ce dont je vais témoigner est directement lié à l'expérience que nous menons donc à Valgiros depuis à peine 2 ans et demi, et nous sommes donc encore en plein apprentissage, en plein tâtonnement. Et dans beaucoup de domaines, mais il paraît qu'il faut 7 ans pour qu'une telle expérimentation puisse trouver un certain équilibre, alors bon, on patiente. Par ailleurs, je vais beaucoup parler de bénévoles et d'accueillis, au risque d'un peu catégoriser ces personnes, et bien évident que ces groupes ne sont pas homogènes, et qu'il ne faut pas généraliser des comportements qui peuvent être décrits comme étant systématiquement ceux des bénévoles ou ceux des accueillis. Alors avant d'être une expérience spirituelle, comme le titre de la soirée pouvait le laisser entendre, vivre sous un même toit est d'abord une expérience humaine. Il s'agit de cohabiter du jour au lendemain avec des personnes qui ne se sont pas choisies. Il y a un premier groupe, celui des accueillis, c'est-à-dire des personnes qui viennent de la grande exclusion ou de la rue, qui a accepté de rejoindre Valgiros essentiellement pour se mettre à l'abri après de longs mois, voire de longues années d'errance, en imaginant que cette mise à l'abri va lui permettre de résoudre rapidement l'ensemble des problèmes de santé, d'emploi, de logement, et qui vont pouvoir recouvrer à court terme une véritable autonomie. Le deuxième groupe, celui des bénévoles, il vient de manière plus réfléchie, il est mu par un certain idéal, une certaine générosité, mais il a en tête un projet qui ressemble à celui de Valgiros, mais dont il a surtout retenu les éléments qui correspondent à ses aspirations ou à ses convictions. Alors tout ça pour dire que tout ce petit monde se retrouve dans des appartements de 8, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui viennent de la rue et 3 bénévoles. Donc ils viennent chacun avec le poids de leur histoire, pour certaines, essentiellement pour les accueillis, une histoire qui est difficile, qui est douloureuse, mais aussi avec le poids des espérances et de ces attentes, même inconscientes, et pour les bénévoles d'une mission qui se sont plus ou moins assignées en cohérence plus ou moins avec le projet Valgiros. Alors la réalité va rattraper très rapidement ces deux groupes, déjà pas du tout homogènes, autant d'individus, autant de motivations, et on se retrouve très vite confronté à des situations très concrètes de courses, de cuisine, de ménage, de partage des sanitaires, de comportements quotidiens, d'hygiène, de manière de se nourrir ou de manger, d'horaires, etc., etc., qui conduisent à l'incompréhension et parfois au conflit. Alors on essaye de trouver des solutions, parce que les règles de vie commune qu'on avait imaginées sont pas forcément adaptées. Alors on les adapte, mais on arrive quand même à des impasses. Parce que certains refusent de faire les courses, la cuisine ou le ménage, certains même refusent de faire les trois. D'autres ne veulent pas participer au repas commun ou aux réunions d'appartement. Et puis ceux qui manifestaient de la bonne volonté, devant l'inaction des autres, ils s'arrêtent. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de raison. Donc le système se bloque. Alors bon, tout ça, je résume un peu rapidement un processus qui est quand même bon, pas aussi rapide et radical, mais enfin c'est du vécu. Hein. Alors devant cette situation, les bénévoles se demandent, commencent à se demander ce qu'ils sont venus faire là. Ils sont venus pleins d'amour, pleins de générosité, certains mus par leur foi. Donc ils prennent sur eux une fois, 10 fois, 100 fois, conscients du passé difficile de tous ces accueillis qui sont là, bah, ils acceptent que bon bah tout le monde fasse pas tout, ils prennent leur part, ils le font à leur place, et ils n'en reçoivent aucune gratitude. Pire, ils sont parfois montrés comme les responsables de tout ce qui va pas dans l'appartement. Donc les rappels au règlement ne fonctionnent pas non plus, et pour les bénévoles, au moins certains d'entre eux, ce qui se passe, c'est pas du tout ce qu'ils avaient imaginé ou rêvé. Et donc là, il y a une première conversion à vivre, si on veut pouvoir continuer, c'est accepter de se déposséder de ses ambitions et de sa volonté de maîtriser le processus. Surtout si on reste qu'un an, parce qu'un an, c'est court, et pas du tout à l'échelle du temps qu'il faut à quelqu'un pour commencer à se reconstruire. Donc en un an, il se passe pas grand-chose dans la vie de quelqu'un qui vient de la rue et qui est là pour essayer de se reconstruire. Donc il faut accepter d'avancer au rythme de chacun, accepter de vivre simplement avec l'autre, même dans l'insatisfaction. Donc je pense à une bénévole qui est arrivée pleine de dynamisme et d'entrain, ayant attendu un an qu'une place se libère pour nous rejoindre. Et elle est très vite tombée de haut. Il n'y avait aucune ambiance dans l'appartement, chacune était dans son coin, il y avait des conflits incompréhensibles entre les résidentes, elle dînait souvent seule, et elle, qui était très active et très entreprenante, n'arrivait pas à se résoudre à ce qu'il ne se passe rien et qu'elle ne puisse rien faire. Elle était venue pour faire quelque chose, pour être utile. Alors dans la douleur, elle a petit à petit purifié ses motivations, la composition de l'appartement a un petit peu changé. Et finalement, au bout d'un an, au moment de partir, elle a trouvé dommage de partir, sentant qu'elle avait enfin trouvé le juste positionnement. Mais elle n'y est arrivée qu'au terme d'un combat spirituel qui lui a demandé une véritable conversion par rapport à ses habitudes et à ses façons de faire. Je pense aussi à une autre bénévole qu'une de ses co-résidentes avait prise en grippe et qui a été harcelée en permanence par elle durant plusieurs mois. De manière insidieuse et méchante, et ça a été vraiment très difficile pour elle, elle en a beaucoup souffert, et elle nous a confié en fin d'année qu'elle avait vécu ce passage à Valgiros comme le serviteur souffrant d'Isaïe, humilié et chargé des douleurs et des souffrances de cette co-résidente qui s'exprimait ainsi dans cette agressivité. Donc au terme, là aussi, d'un chemin spirituel éprouvant, elle a ainsi compris que l'agressivité dont elle était, enfin qui lui était injustement destinée, était le fait d'une personne qui la chargeait de ses souffrances, qu'elle n'était pas réellement destinée en tant que telle. Alors on n'en est pas toujours là, il y a quand même des beaux moments de paix et de joie, toujours courts, hein. Mais enfin il est vrai que quotidiennement et très concrètement, on est confronté à la demande du Christ de pardonner 70 fois, 7 fois. Et c'est vraiment pas facile. Alors à côté, j'ai parlé des bénévoles, et le titre de la soirée pouvait laisser penser que vivre une expérience spirituelle leur était réservée. Ce n'est bien évidemment pas le cas, car les accueillis aussi sont amenés à vivre une expérience de cet ordre. Et d'ailleurs, comme l'a dit Pierre, c'est une des convictions fortes de l'association aux captifs La Libération, qui témoigne depuis les origines que l'accompagnement des personnes de la rue doit prendre en compte toutes les dimensions de l'homme, et en particulier la dimension spirituelle. Parce qu'on pense trop souvent, et les personnes de la rue elles-mêmes, qu'une fois la question de la mise à l'abri ou de l'hébergement réglée, le reste va s'enclencher et que le retour à l'autonomie va s'en suivre normalement, presque automatiquement. Alors ça arrangerait bien tout le monde parce que on saurait quoi faire, mais en fait il n'en est rien car une personne qui a connu la rue est une personne qui dans la quasi-totalité des cas, et a été confrontée au mal depuis son enfance, soit qu'elle l'ait subi de manière parfois dramatique, soit qu'elle l'ait commis, et souvent c'est les deux. Enfin, à la fois, il y a un mal subi et un mal commis. Et cette montagne de souffrance qu'on sent vraiment, presque qu'on peut toucher, qui est purulente, qui sont non dites, peu analysées, toute cette montagne de souffrance pèse sur la personne et l'empêche de mener à bien quelques démarches de réinsertion que ce soit. Alors paradoxalement, quand on arrive à Valgiros, on va plus mal, parce que on n'a plus à chercher de logement pour le soir, on est nourri, on est blanchi, pour toutes les choses matérielles, tout est pensé pour vous, au moins dans un premier temps, parce qu'après, on aimerait bien que les personnes prennent en main un certain nombre de choses, mais tout ça pour dire que il ne reste plus que des questions existentielles qui reviennent lancinantes. Pourquoi est-ce que j'en suis là? Quel est le sens de mon existence? Pourquoi est-ce que j'ai jamais été aimé? Quel sens a ma vie? Je ne peux pas oublier le mal qui m'a été fait. Je ne pardonnerai jamais le mal que j'ai fait. Ma vie ne vaut rien, etc. Et donc, on est témoin de véritables combats spirituels qui sont durs, qui sont incertains, mais qui doivent être menés pour que la personne puisse enfin se réconcilier avec elle-même, qu'elle puisse accepter son histoire comme elle est, et enfin pouvoir construire quelque chose à partir de la réalité de son existence telle qu'elle est, sans la nier. Alors ce phénomène est de l'ordre de la résurrection et dépasse largement nos pauvres compétences. Je pense à nos jeunes résidents qui a vécu plus de 10 ans à la rue depuis l'âge de 14 ans, et qui a été transformé un jour à Lourdes en sortant de la piscine. Il m'a dit s'être mis à pleurer, alors qu'il pleurait jamais, il n'avait jamais pleuré. Et il ne comprenait pas ce qui se passait en lui. Il est allé se confesser par la suite. Il a pleuré pendant 1 heure, de manière toujours incompréhensible pour lui. Et il m'a dit qu'il avait maintenant un cœur qui saignait, alors qu'avant il avait un cœur dur, insensible. Donc j'ai vraiment eu l'impression, l'écoutant, lorsqu'il m'a dit ça, de voir la bonne nouvelle s'accomplir sous mes yeux. Et maintenant, il ne sait pas trop quoi faire avec ce cœur qui saigne. Il avance, parce que tous ses problèmes sont bien évidemment pas résolus, donc il avance péniblement avec des à-coups, mais il a découvert qu'il avait un cœur, il a découvert que Dieu l'aimait et que d'autres aussi l'aimaient. Alors même si tout n'est pas réglé pour lui, loin de là, c'est un chemin qui s'est ouvert à lui et qui ne se refermera pas. Alors il y en a un autre qui lutte pour retrouver du travail, qui a même eu la possibilité de signer un CDI, et qui au dernier moment a refusé, alors que la période d'essai s'était bien passée, et qu'il avait toutes les compétences pour réussir, parce que le poids de son passé est encore trop lourd. Il y a certains événements de sa vie qui pèsent sur sa conscience, et il ne peut pas assumer les responsabilités d'un travail, ni l'autonomie d'une vie avec ce poids. Donc son combat spirituel se poursuit, il sait qu'il doit pardonner et qu'il doit demander pardon, mais moi personnellement je suis intimement convaincu que c'est le seul verrou qui aujourd'hui l'empêche de retrouver un travail et de l'assumer. Alors en ce qui me concerne, je ne suis pas différent des autres bénévoles, et je dois aussi travailler spirituellement en permanence pour accepter une certaine impuissance, et accepter que les chemins empruntés par ceux qui vivent avec nous soient tortueux, Mais je dois avouer que là, que les longues années de tournée rue hebdomadaire que j'ai faites pour les captifs pendant 7 ans m'ont grandement aidé à garder, enfin, avoir les mains nues et puis à travailler un peu cette impuissance. Je retiens aussi de ces 2 années et demie les temps de prière le matin à l'aude et le soir accomplis. On a un petit oratoire qu'on a aménagé dans les combles. Alors il y a plus ou moins de participants, souvent moins que plus, mais ce petit reste, ce tout petit reste, porte dans sa prière l'ensemble des résidents. Et ce sont vraiment des moments forts de communion spirituelle exprimée et explicite. Là aussi, il s'agit d'une expérience spirituelle dont la force et la nécessité se sont accrues pour moi au fur et à mesure du temps. Alors pour terminer, je dirais que si je suis encore à Valgiros aujourd'hui, c'est parce que le Christ y est présent, j'en suis intimement convaincu qu'il est là avec moi, lorsque je ne peux plus rien faire devant la souffrance d'un résident qui va aller s'alcooliser pour la 1000e fois encore et revenir complètement défoncé, ou devant la désespérance d'un autre qui va une nouvelle fois s'ouvrir les veines et qu'il va falloir accompagner à Georges Pompidou. Donc là, le Christ est là quand je suis un peu en miettes, et il est là pour m'aider à tenir malgré tout, parce que je pense que si le Christ n'était pas là, je serais parti depuis longtemps. Et je pense que si le Christ n'habitait pas avec nous à Valgiros, l'expérience aurait aussi cessé depuis longtemps. En tout cas, je ne vois pas d'autre explication au fait que ça continue. Voilà, donc merci.
Brièvement. Merci Pascal. Je voudrais revenir sur le sens du mot Valgiros, parce que, encore une fois, ce centre d'hébergement n'est pas simplement qu'un centre d'hébergement, ce n'est pas simplement qu'un lieu de vie, et Pascal l'a bien expliqué, c'est aussi un lieu où se vit l'Évangile, et Valgiros tient sur cette fondation. Alors, le nom Valgiros a été choisi à cause de son adresse, puisqu'il est situé rue de Vaugirard. Et pour les Parisiens que vous êtes, vous saviez qu'avant, cette rue de Vaugirard s'appelait le Val-Gérard, d'où le jeu de mots avec le père Giros. Et je pense qu'il y a une dimension symbolique qui est encore plus profonde, qui fait référence au Val, ce lieu de transformation évoqué dans la Bible. Dans le prophète Osée, il est dit que je ferai du Val d'Accor une porte d'espérance. Et je voudrais simplement terminer sur cette note. C'est bien cette espérance-là qui nous fait vivre. Nos existences, finalement, n'ont du sens que dans la mesure où nous pouvons vivre des relations, où nous pouvons construire du lien qui nourrissent en nous l'espérance, et avec des personnes qui ne peuvent se reconstruire que si précisément elles se retrouvent dans un lien de confiance, vu leur histoire. Et que finalement, on est là dans la logique de l'Évangile, arriver à se faire proche du prochain. Ce qui, je pense, et c'est moi l'expérience que je peux vivre, c'est de se laisser, accepter de se laisser déplacer.
Voilà, merci à Pierre et à Pascal pour leur témoignage. Nous pourrons revenir tout à l'heure sur leur expérience. Je note en tout cas que cette expérience est tout sauf un long fleuve tranquille. Mais qu'elle est marquée par la souffrance, par la conversion, par l'impuissance par moments, et que l'expérience spirituelle qui est en jeu est de l'ordre de la bagarre, du combat et de l'espérance qu'il faut pouvoir retrouver. Autre expérience, autre lieu, je vais tout de suite donner la parole maintenant à Isabella Moulet pour une autre expérience de vécu commun sous un même toit, c'est celle de JRS France et du réseau Welcome.
Bonsoir. Mon intervention s'articulera en 4 parties. D'abord, une brève introduction sur le devoir d'hospitalité tel que présenté par des textes qui ont valeur de loi. Une courte présentation du projet du JRS dont je suis la responsable, des extraits de témoignages qui seront lus par Nadette, qui appartient à l'équipe d'animation, a été famille d'accueil et tutrice, et ensuite une réponse parmi les 1000 possibles à la question qui nous réunit ce soir. Étant en présence de deux théologiens, comme introduction, j'ai choisi l'angle juridique. Et il me semble intéressant de remarquer que depuis l'Antiquité, les législateurs, tout en présentant l'importance de l'hospitalité comme moyen pour promouvoir les bons rapports de voisinage, mitiger la peur de ceux qui viennent de l'extérieur et assurer une plus grande stabilité de la société, ont eu un peu de mal à la codifier. Et ceci aussi bien quand ils font appel à des principes religieux que quand ils se réfèrent à des principes universels qu'ils considèrent patrimoine commun de l'humanité. La Torah ne mentionne que rarement le devoir d'accueil et de respect de l'intégrité de l'étranger. L'on sent que pour un peuple conquis ou conquérant, selon les époques, cela n'est pas naturel et pose question. En Grèce, nous trouvons dans chaque cité un devoir moral et pratique d'accueil des personnes exilées par les autres polices, ainsi que des pèlerins qui participent aux fêtes religieuses. Dans l'Empire romain, l'accueil est davantage codifié et l'on institue notamment un devoir d'accueil envers les armées en déplacement, accueil qui s'apparente donc plus d'une obligation que d'un plaisir. Dans le Coran, l'accueil est sacralisé et l'islam aura une grande influence sur les coutumes des populations européennes assujetties ou en contact avec les musulmans, par exemple en Espagne, en Sicile, en Grèce. À partir de l'époque des grandes invasions barbares, la situation de chaos et d'insécurité n'invite plus vraiment à une réflexion générale sur l'accueil de l'étranger, mais plutôt à des pratiques sociales d'accueil du semblable à l'intérieur d'un milieu bien déterminé, milieu chrétien, milieu marchand, milieu des diplomates. À l'époque des Lumières, l'on s'intéresse de plus en plus de près à un type d'étranger bien précis, l'étranger persécuté. En France, son accueil sera institutionnalisé par la Constitution de 1793. Passons à des temps modernes, la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace européen est aussi l'un des principes fondamentaux de l'Union européenne. Mais dans ce cas, à nouveau, l'accueil concerne les nôtres, les Européens, et n'est l'allocution d'étrangers extra-communautaires, dont la présence sur le territoire est ou pas souhaitée pour des raisons éminemment économiques, besoin de main-d'œuvre, ou économiques et de prestige, par exemple la formation des élites des pays étrangers. Je relève donc l'ambivalence de la vision sociétale de la rencontre avec l'étranger. Elle est pressentie comme dangereuse, facteur potentiel de troubles de l'ordre public, mais aussi comme inévitable et parfois souhaitée. Les normes d'origine religieuse insistent plutôt, par contre, sur son côté positif. Un devoir de mémoire, un devoir de bonté et de solidarité, une possibilité d'enrichissement humain et spirituel. Notre projet aussi, comme le projet de Valgiros, existe depuis 3 ans. Il a été mis en place par la Compagnie de Jésus. L'idée de base était de mettre un réseau à Paris et dans différentes régions de France, des familles et des communautés religieuses prêtes à offrir un mois d'hospitalité, donc concrètement une chambre et un peu de convivialité, à un jeune demandeur d'asile connu et suivi par des associations partenaires qui se trouve à la rue en attendant que l'État lui fournisse un hébergement. Je rappelle que pour la Convention de Genève, est persécuté et donc défini comme réfugié toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou d'opinion politique, ne peut ou ne veut pas rentrer dans son pays d'origine. À travers l'accueil chez soi d'un jeune réfugié, nous souhaitons donc provoquer une rencontre entre deux univers et par là permettre une connaissance, une prise de conscience et le développement d'un sentiment de sécurité des deux côtés. D'un côté, un demandeur d'asile qui a passé plusieurs mois à la rue sans contact avec d'autres Français que ceux qui sont censés le suivre et l'aider pour ses démarches. De l'autre, une famille française, son voisinage, ses amis et toutes les personnes qui seront amenées à la côtoyer pendant la période de son séjour. Je passe donc à des témoignages, à des extraits de témoignages, certaines des familles qui sont présentes ici ce soir. Tout d'abord, celui d'un jeune accueilli iranien de 25 ans, et ensuite de deux accueillants, un couple dont les enfants sont partis et une famille avec trois enfants à la maison.
Le jeune Iranien est resté plusieurs mois dans le réseau d'accueil. On lui a demandé « Que voudrais-tu dire ?» Je dois dire tout d'abord qu'il est très important de vivre avec des Français. Il me semblait chaque soir que j'avais vécu des choses incompréhensibles dans la ville. En rentrant, je pouvais en parler, demander des explications et saisir enfin ce qui s'était réellement passé et pourquoi. Et puis, je me sentais attendue. Le premier accueil est toujours un peu difficile car on a l'impression de gêner et l'on ne sait ni de quoi parler ni comment le dire. Et on voit que les personnes qui vous accueillent font beaucoup d'efforts et on est encore plus gêné. Puis, ça devient plus facile et on est vraiment content. Et on se dit que ceux qui ne passent pas dans des familles ne comprendront jamais rien à la France. Ensuite, comme je le disais, dès que je me retrouvais seule, c'était comme si j'étais encore au pays, avec toutes les craintes et la douleur qui ressurgissait. Être en famille m'aidait à me concentrer sur des personnes, des mots, des choses, à être vraiment présent.
Je relève donc deux points, les accueillant comme passeurs d'une connaissance, d'une compréhension, sans lesquelles l'étranger reste dans les brouillards et vraiment en marge, et deuxièmement, l'espace de vie commune comme un ancrage dans le présent. Maintenant, écoutons des accueillants.
Une première famille. Lorsque nous avons été sollicités, ce qui nous était demandé nous est apparu matériellement possible et moralement urgent. Nous avons donc ouvert notre porte et découvert, rencontre après rencontre, que ce n'est pas la misère du monde que nous accueillons, mais le désir de vivre. L'énergie déployée par ces jeunes a quelque chose de profondément stimulant. À travers ce que nous faisons, si dérisoire que cela puisse apparaître à l'échelle du monde, nous voulons croire que quelque chose est en germe. Une autre famille. Notre rôle est simplement de l'accueillir. Pour cela, il faut apprendre à respecter la timidité, la pudeur, voire l'appréhension de ce jeune qui a souvent vécu de lourdes épreuves et qui, depuis son arrivée en France, se sent rejeté. Il a peur de mal faire, n'ose pas facilement se confier, d'autant qu'il va devoir repartir et s'habituer à une autre famille. L'apprivoisement demande du temps et un peu d'adaptation réciproque. Mais quel cadeau! Que ces moments partagés de rencontres mutuelles et de découvertes de nos mondes si différents. Devant les épreuves vécues par le jeune et ses interrogations sur son avenir, je me sens bien petite. Mais en l'accueillant, les réfugiés sont souvent musulmans, j'espère témoigner de l'amour du Christ pour chaque homme et être à ma manière artisan de paix.
Notons que la confiance mutuelle naît de la vie en commun et devient le socle de la relation, qui ne sera bien vécue par l'accueillant que s'il accepte de lâcher tout pouvoir sur l'accueil et de le recevoir comme un véritable mystère, avec humilité et respect. Car une vraie rencontre est faite d'humilité. On y apporte tout ce qu'elle en est, ses grandeurs, mais aussi ses faiblesses et ses pauvretés. Et cette humilité surgit aussi d'une prise de conscience. Il faut renoncer aux grandes choses, aux grandes discussions, et trouver un sens et un plaisir dans les petits gestes du quotidien. Maintenant, c'est un jeune religieux d'une communauté qui parle de l'accueil.
Cet accueil m'a obligée à porter attention aux actes simples, concrets, et à ne pas être seulement dans la parole. Car l'essentiel, avec des jeunes intimidés et qui parlent peu la langue, passe par les attitudes. Cela m'a rappelé à la réalité. Et j'ai simplifié ma façon d'entrer en relation, d'être avec l'autre. Ça a été aussi une exhortation à accepter les personnes telles qu'elles sont, avec leur côté sombre, leur non-dit, leur part d'inaccessibilité.
Donc, deux questions qui nous réunissent cette soirée, à savoir, à travers cette vie commune et les gestes de tous les jours, quelle expérience peut être vécue de l'Évangile et en quoi cette hospitalité peut être source d'une vraie rencontre où le Christ se révèle? Je ne veux témoigner que de mon expérience, laissant à ceux parmi nous qui ont partagé le quotidien d'un accueil dans leur foyer la possibilité de s'exprimer sur la leur. Tout d'abord, le retour à une simplicité de pensée, des gestes. Une parole qui ne devient que l'un des moyens et pas le plus important de la relation. Une nécessité de clarté sur soi-même. Le développement d'empathie et de force d'âme. Une obligation de vigilance, car il y a des choses qu'il ne peut pas entendre, car il y a des questions qui seraient indiscrètes. Un encouragement au lâcher prise, ce pouvoir sur l'autre justement. Et enfin, une obligation d'espérance, parce qu'il y a des moments où c'est nous qui devons avoir du courage pour lui. Et en tout cela, je retrouve le Christ, un homme qui a surtout été. Nous le voyons faire dans l'Évangile, mais surtout il est présence visible et offerte. En deuxième lieu, et ce fut pour moi une expérience fondamentale, les gestes et les moments partagés au quotidien provoquent et ouvrent à nous la voie d'un chemin de vérité. L'accueil qui partage mon toit ne m'a pas choisi, et moi, je ne l'ai pas choisi. Par contre, moi, j'ai choisi d'offrir mon hospitalité et lui d'accepter d'être accueilli par quelqu'un. Cela peut partir d'un vrai désir de rencontre, mais aussi tout simplement de la peur et de la fatigue de la rue. Ce n'est pas facile d'être accueilli. Être accueillant peut le sembler, mais tout dépend de jusqu'où l'on accepte de se mettre en jeu. Car au fil de semaines, malgré les efforts, il ne sera plus possible de se cacher, de faire semblant d'être différent de ce que l'on est. Cette mise en situation finira pour nous dévoiler des pans de notre caractère dont nous n'étions pas forcément conscients ou que nous n'avions pas forcément envie de voir. Mais nous découvrirons aussi de très belles choses. Chacun se rendra compte des exigences dont il ne peut pas faire abstraction. Les interactions familiales seront mises à nu. Nous-mêmes, notre conjoint, nos frères et sœurs dans les congrégations ressortiront redimensionnés. L'accueil sera aussi confronté à sa vérité. Et c'est sur ce chemin de vérité que les accueils sont nos véritables compagnons de route. Une vérité qui, à son tour, ouvrira la porte au courage de s'accepter tel que l'on est et d'accepter le monde tel qu'il est, sans pour autant baisser les bras et en continuant à œuvrer pour la justice et pour qu'advienne le royaume.
Voilà, merci Isabella pour cette expérience. Vous voyez que c'est une toute autre expérience en même temps. C'est intéressant de voir aussi les rapprochements et les différences. Je retiens comme ça tout de suite le chemin de vérité que cette rencontre vous oblige à faire et le passage par des gestes simples qui oblige aussi à simplifier la communication. Je passe maintenant la parole à Étienne Grieux, comme théologien, pour nous aider à reprendre ces expériences et à pousser plus loin la réflexion.
Voilà, mais merci beaucoup, et merci pour les témoignages que nous avons entendus. Moi, je vais simplement, essayer d'avancer par rapport à la question, de continuer à avancer par rapport à la question. Vivre sous le toit avec l'étranger ou l'exclu, une expérience spirituelle, point d'interrogation. À partir de ce qui est dit, je crois qu'on peut signaler une première chose qui met la puce à l'oreille pour annoncer une expérience spirituelle. C'est que les choses ne se passent pas tout à fait comme on l'imaginait au départ. Ça, c'est plutôt le signe qu'il se passe quelque chose de vraiment intéressant. C'est le signe qui risque d'y avoir du nouveau. Et c'est peut-être le signe qu'on n'est pas loin d'une expérience qui fait bouger des choses aussi en profondeur. Voilà, donc ça nous met sur la piste, disons, pour dire qu'il y a peut-être vraiment une expérience spirituelle de ce côté-là. Alors, regardons ce qui bouge. À partir de ce qui a été dit, moi j'ai relevé trois points. La première chose, c'est qu'en vivant sous le même toit que quelqu'un d'autre, on pourrait dire « je livre quelque chose de mon intérieur ». Intérieur, c'est un mot qui désigne ce qui se passe en nous, mais ça désigne aussi une habitation. Donc je livre quelque chose de mon intérieur à l'autre. Et comme le soulignait Isabella, au bout d'un moment de vie ensemble, on ne peut plus trop cacher certains de nos petits côtés. On pourrait ajouter, sans doute qu'on dévoile aussi ce qui nous est le plus cher, à travers telle photo, tel tableau, tel bibelot, tel souvenir, qui disent nos attachements extrêmement forts. Et tout cela, la mise en lumière des petits côtés, et le fait de montrer ce qui fait notre trésor, on pourrait dire, eh bien, on peut en parler comme d'une expérience de vérité, ce que faisait Isabella à l'instant. Alors, cette expérience de vérité peut s'accompagner, et s'accompagne aussi en général, d'un certain dépouillement. Le mot est venu, à plusieurs reprises, on pourrait parler aussi de simplification, et le mot aussi est venu. Et je crois que ça, là, on a bien affaire à une expérience spirituelle, on peut dire. Alors, ce que je viens de dire là vaut, on pourrait dire, pour toute expérience d'hospitalité. Mais quand cet hôte est un étranger ou quelqu'un qui est marqué par la galère, le même phénomène joue avec sans doute plus d'ampleur, de manière beaucoup plus râpeuse, comme on l'a entendu à travers les témoignages sur Valjiro. Il y a quelque chose d'une dépossession, d'une démaîtrise, qui conduit à faire notamment des deuils de projets de réussite qu'on pouvait avoir par rapport à la personne. Alors là, le dépouillement, la simplification joue encore plus fort, disons. Sans doute que, au milieu de tout ça, il y a encore quelque chose d'autre qui se fait entendre. C'est que quand la rencontre a lieu vraiment, c'est-à-dire quand il peut y avoir ce partage à la fois de nos petits côtés qui disent nos limites, et ça nous met en vulnérabilité de partager ça, et quand on peut partager ça et en même temps quelque chose de notre trésor, il y a une expérience de rencontre qui a lieu. Et disons, je pense que là, il y a aussi une expérience extrêmement forte et intéressante, qui notamment peut faire entendre autre chose que les réflexes qui sont sans doute profondément inscrits en nous et qui font qu'on peut avoir tendance à regarder des personnes en difficulté à partir de notre position à nous et se faisant de nous mettre un peu sur un promontoire. Alors bien sûr, tout de suite, on va se dire « mais non, je ne dois pas faire comme ça, etc. etc. » Mais il reste que ces genres de réflexes, disons, reviennent malgré nous, très souvent. Mais quand on peut faire cette expérience de rencontre à partir à la fois de nos vulnérabilités et de nos trésors, je crois qu'il y a quelque chose d'autre que cette dissymétrie qui peut avoir lieu. Et ça, je crois que c'est une vraie expérience spirituelle aussi. Dans ces expériences de rencontre, il y a sans doute, même si c'est tout petit, il y a sans doute la perception de manières de sentir, des manières de voir très différentes des miennes. Et ça aussi, c'est une expérience qu'on pourrait dire d'ouverture, là, mais qui est extrêmement précieuse. Je crois qu'on peut reconnaître, et c'est pas un scoop que je vous dis là, qu'on a quand même tous, comme êtres humains, une certaine tendance à l'égocentrisme. Cette tendance-là, avant de se culpabiliser là-dessus, on pourrait l'expliquer d'une manière toute simple. Il n'y a qu'un seul être que je connaisse de l'intérieur. C'est moi. et tous les autres, je les appréhende de l'extérieur. Ça, c'est la règle générale et elle est extrêmement prégnante. Mais il y a des expériences qui viennent faire bouger un tout petit peu cette règle générale ou qui ouvrent des exceptions. On pourrait citer l'expérience de la compassion, quand je suis touché au fond de moi par la souffrance d'un autre. Mais je crois qu'on peut dire que vivre sous le même toit est de même une expérience qui vient faire bouger cette règle générale. À cause tout simplement de cette caractéristique de l'habitation, d'être un intérieur qui exprime sous une forme sensible quelque chose de l'intérieur de ceux qui y vivent. Et donc habiter chez un autre ou avec un autre fait un peu entrer dans son intérieur. Et dès lors, on ne peut plus parler de frontières extrêmement nettes entre chacun. C'est à la fois pas très confortable et en même temps ça a quelque chose de salutaire. Car mon monde, qui est toujours tenté de s'enclore sur lui-même et de se refermer, se trouve empêché justement de s'enclore. Je crois que là, il y a un vrai type d'expérience spirituelle, celle de l'ouverture qui me sauve de l'enfermement. Alors ça joue à plus forte raison quand l'autre est un étranger ou quelqu'un qui a une histoire marquée par la galère. Car les horizons de provenance des uns et des autres sont à des milliers de kilomètres de distance, des kilomètres réels ou bien symboliques, à travers des types d'expériences, d'histoires qui sont très très différentes. J'imagine que ça ne se fait pas sans difficulté, on en a été un peu, vous avez dit des choses qui allaient dans ce sens-là, et que parfois ça ne marche pas, ou bien que ça met beaucoup de temps à pouvoir s'ouvrir, que ça passe par des crises, des rebondissements, mais quand cette ouverture peut avoir lieu, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement précieux alors qui peut se passer. Et quand ça marche, justement, qu'est-ce qui se passe finalement? Je vais essayer de redire des choses, mais vous n'hésiterez pas à me corriger en fonction de les expériences dont vous parlez. Quand on vit sous le même toit que des personnes dont on est proche par le milieu social ou par le bagage culturel ou par des affinités diverses, on peut assez relativement facilement se mettre d'accord pour bâtir un monde en commun. Et l'aménagement de la maison sera peut-être l'occasion de donner consistance à ce projet. Mais quand on vit avec des personnes qui viennent d'horizons tout autres, j'imagine que c'est beaucoup moins facile. Si on accueille pour une durée assez brève, la question n'est pas à l'ordre du jour. On ne va pas réaménager son appartement avec une personne pour une durée de un mois. Voilà. Mais dans le cadre de Valgiro, ou bien on peut penser aussi à des choses comme les foyers de l'Arche de Jean Vanier, j'imagine que la question doit se poser, comment on aménage l'appartement? Supposons qu'en fait, on ne parvienne pas vraiment à reconstituer un monde en commun. Ce qui peut se traduire par le fait que l'aménagement est déterminé principalement par certains et que les autres ont une influence seulement à la marge pour en décider. Donc supposons que ça ne marche pas, qu'on n'arrive pas à recomposer un monde en commun à travers ce symbole d'un appartement aménagé. Est-ce que c'est si grave que ça? Oui, si on prétendait avoir réussi à recomposer un monde en commun. Mais non, ça n'est pas si grave que ça si on reconnaît tout simplement qu'on n'y est pas arrivé. Et même, je dirais que alors, il y a aussi une expérience très intéressante qui se passe, qu'on pourrait qualifier aussi d'expérience spirituelle. Car alors, qu'est-ce qui se passe? On est amené à reconnaître que le monde qu'on avait cherché à construire et qu'on avait projeté de construire avec d'autres, eh bien finalement, on n'y arrive pas. Eh bien peut-être que ça révèle, ça dévoile que notre manière de bâtir, notre manière d'aménager, de construire notre monde, n'est pas apte à se confronter à d'autres manières qui sont différentes. On n'y est pas encore, voilà. Eh bien, admettre cela, le reconnaître, ça peut être finalement une expérience heureuse, parce que ça peut nous amener à relativiser nos désirs, nos projets de construction. Et ça peut nous amener au moins à reconnaître que nos projets de construction, nos manières de projeter un monde spontanément, ne disent pas tout de l'expérience humaine et sont finalement très limités aussi. Alors c'est un peu un travail de deuil, un travail de renoncement à créer un chez-soi qui puisse se prétendre ouvert à tous et où tous se retrouveraient à l'aise. Voilà. Je crois qu'à partir de là, on peut trouver une aide pour remettre également à leur juste place toutes les constructions humaines qu'on fait. Notamment quand elles ont la prétention de pouvoir tout dire, de pouvoir accueillir tout le monde et de tout bien dire de l'homme. Je crois que ça peut nous amener à une attitude dans laquelle, bien que nous faisons sans cesse des constructions et des projets de construction, nous ne sommes pas naïfs et nous savons que nos projets de construction restent finalement très limités et restent inhospitaliers pour plein de personnes. Je crois qu'à partir de là, il y a de quoi réfléchir aussi plus largement à nos manières d'envisager la construction d'un monde en commun et à la manière de penser, disons, ce qu'on peut faire dans le domaine politique, social, toutes les constructions qu'on est sans cesse en train d'essayer de faire. Voilà. Et ce travail, cette expérience d'hospitalité avec les limites qu'on peut ressentir, peut au moins nous aider à ne pas croire que les projets de monde que nous faisons sont parfaits. Voilà. Et tout simplement prendre conscience qu'ils sont en grande partie inhospitaliers. À partir de là, je crois qu'il y a une piste pour comprendre pourquoi on parle dans l'Épître aux Hébreux de nos pères dans la foi comme des étrangers et des voyageurs qui étaient en quête d'un pays. Un croyant, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a fait l'expérience du caractère relatif, voire même trompeur, de toutes nos constructions, notamment lorsqu'elles prétendent à être pleines de tout ce que l'homme peut produire et exprimer? Du coup, le croyant, il se refuse à se satisfaire des constructions existantes et il peut les critiquer. Quand sa critique est constructive, il participe en fait au perpétuel chantier de réélaboration d'un monde en commun, mais il le fait sans entrer dans l'illusion qu'on parviendrait à une cité idéale. Je crois qu'on touche ici un troisième type d'expérience spirituelle en fait, qui est celle du pèlerinage. Être tendu vers une promesse qui relativise et qui critique toutes les réalisations en place et qui en même temps provoque à les retravailler, mais en gardant en même temps sans cesse conscience de leur caractère provisoire et insatisfaisant. Voilà. C'est pour ça aussi que je crois qu'à travers ces expériences qui peuvent paraître assez exceptionnelles, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui peut faire signe plus largement pour la société. D'une part parce que ça ouvre des lieux où ce qui paraissait assez impossible, ça marche quand même, tant bien que mal, avec beaucoup de... Ça marche qu'à un cas, mais ça paraît pas impossible. Ça permet de lever des impossibles. Et puis une deuxième chose, à travers, la modestie à laquelle ça invite, je crois que ça permet de relativiser, toutes nos manières de penser des constructions sociales. Voilà. Je vous remercie.
Voilà, merci à Étienne. Je crois qu'on peut remercier aussi Étienne pour son éclairage, voilà, sur la manière de comprendre les différentes étapes de l'expérience spirituelle, une ouverture, un pèlerinage, une manière de réaliser que nos constructions humaines sont toujours imparfaites et que nous sommes tendus vers un idéal que nous essayons de mettre en œuvre, voilà, plus ou moins facilement, comme nous l'avons vu. Je voulais vous demander peut-être à l'un et aux autres si vous vouliez réagir par rapport à ce que vous avez entendu avant de vous laisser la parole dans la salle et puis à vos témoignages, à vos questions. Peut-être laisser un petit peu de temps pour si l'un ou l'autre voulait reprendre la parole par rapport à ce qui a été dit d'une autre expérience ou bien de ce que vient de dire Étienne sur l'expérience spirituelle.
Peut-être c'est que je note différence entre nos deux expériences et c'est une différence fondamentale que dans le cas de Welcome, il y a un étranger qui est accueilli dans un endroit qui existe déjà, où il y a une harmonie, où il y a une façon de fonctionner bien établie. Dans le cas de Vajiros, par contre, c'est un laboratoire où l'on essaie de construire quelque chose qui déplace tout le monde. Donc je vois ceci comme différence. Et comme chose en commun, je trouve cette nécessité de ne pas projeter ses envies, ses désirs, ses projets sur l'autre, de ne pas penser pour lui ce qui est mieux, mais finalement apprendre à les laisser libres et faire confiance à la Providence.
Merci. Pascal.
Oui, Vajiros, effectivement, on pourrait se dire que c'est quelque chose, on essaie de construire quelque chose d'idéal, puisque bon, on part de rien, puis on essaie de faire. Bon. Donc, cet appel à pas chercher à construire quelque chose. Il faut à la fois construire un monde commun, c'est-à-dire où chacun puisse être bien et vivre ensemble, tout en laissant à l'autre, tout en laissant à chacun, un espace de liberté, puisque bon, c'est un peu factice de penser que on va vivre de façon idéale ensemble, avec les mêmes. Avec les mêmes envies, les mêmes règles, les mêmes. Je pense, cette notion à la fois d'avoir un espace commun dans lequel on est bien, mais avec une liberté laissée à chacun de pas entrer totalement dans cette communauté.
Oui, parce que Vajiros, on n'accueille pas les gens chez soi. On crée un autre endroit.
On crée un espace commun
qui va essayer de vivre ensemble.
Qui n'est pas une communauté, parce que chacun n'est pas venu comme dans une communauté religieuse ou dans une communauté spirituelle avec un but commun. On vient là, on vit ensemble. Quoi. C'est une notion de vivre ensemble. Donc il ne faut pas surinvestir dans un hébergement idéal partagé par tout le monde.
Alors en même temps, il y a des règles, il y a des murs qui sont là déjà, il y a aussi des gens qui sont là depuis longtemps, ou un peu plus longtemps que ceux qui arrivent.
Ouais.
Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une institution qui continue, qui s'installe, qui est des traditions qui commencent.
Ouais, il faut 7 ans, hein, donc là, pour le moment, on est un peu...
Voilà, non mais j'ai...
Parce qu'il y a aussi quelque chose d'un peu paradoxal, c'est qu'au début, bon, on pense qu'il y a des salariés, il y a des bénévoles, donc c'est un peu les bénévoles qui portent un peu le projet au début, hein, parce qu'ils y ont réfléchi avant, etc. Puis il y a des accueillis qui arrivent petit à petit, qui s'installent, et puis alors la première génération de bénévoles s'en va, mais les accueillis sont toujours là. Hein, et la deuxième génération de bénévoles s'en va, et les accueillis sont toujours là, donc on ne sait plus trop qui accueille qui. Et qui fait la loi, là, parce que du coup, c'est un peu les accueillis qui ont tendance à faire la loi, mais alors c'est une loi un peu individuelle, c'est-à-dire que c'est pas une loi commune, c'est que chacun s'est déterminé un peu son espace, et enfin voilà, donc d'où la difficulté à trouver des règles un peu communes qui permettent un vivre ensemble, mais qui respectent aussi toute une histoire de chacun, et parce que voilà. On n'a pas les mêmes façons. C'est toujours dans des choses très concrètes. Hein. On n'a pas les mêmes façons de manger. On n'a pas les mêmes habitudes alimentaires. Alors comment est-ce qu'on fait pour manger à 8 quand alors je ne parle pas de ceux qui sont végétariens parce que c'est encore un autre problème. Mais enfin même la façon de mettre le couvert. Enfin bon, ça a l'air idiot, mais c'est des choses comme ça. C'est là-dessus que et donc on peut pas imposer une règle parce que qui va imposer la règle du couvert ou de la de ce qu'on mange. Donc c'est voilà, c'est compliqué.
Voilà, je vous laisse réagir ou poser des questions, ou donner votre témoignage. On peut continuer à interroger l'un et l'autre, ou bien Étienne sur les questions. Voilà. Alors, si quelqu'un veut bien passer le micro, alors, il y a un micro qui est là. Vous parlez bien dans le micro. Voilà, il y a un monsieur là-bas.
Oui, j'aimerais poser une question à Pierre et Pascal au sujet de Valgirose. Même si 2 ans, c'est un recul qui est probablement un peu trop bref, est-ce que vous avez une perception de quelques facteurs clés pour une réinsertion ? Quelques-uns.
Voilà, Pierre.
La question est très pertinente, mais pas si facile que ça. Dans l'accompagnement social, il faut essayer de mettre en place des marqueurs pour pouvoir apprécier la globalité du parcours de la personne et de pouvoir mieux apprécier le travail qu'elle peut faire sur la récupération la plus large possible de son autonomie. Ça peut aller aussi bien sur la capacité que la personne a de conduire ses démarches sociales, l'ouverture de ses droits, son hygiène, ses relations, sa capacité à construire des relations avec d'autres, de s'engager dans des activités, voir quelque chose de plus subjectif sur son bien-être, voilà. Toute la question de la santé. Et habituellement, nous avons quand même affaire à des gens qui sont profondément blessés, déstructurés, et que nous sommes là dans une forme d'impatience. On se dit, mais nous avons là un espace absolument exceptionnel, disons-le. Donc, forcément, comment se fait-il qu'il y a encore tant de freins qui pénalisent finalement la marche de la personne? Donc là, c'est vrai qu'on fait déjà, nous, l'expérience d'une forme d'impuissance. On est confronté, ce que j'entendais tout à l'heure, le terme du mystère, on est confronté au mystère aussi de la personne. Alors, quelle est la fissure que l'on peut toucher du doigt et qui va, je pense, profondément bouleverser la personne pour que, voilà, elle se mette ensuite à être délivrée d'un certain nombre de liens qui pouvait la freiner. Donc tout ça pour dire que il y a des personnes qui vont, comment dirais-je, pour qui le parcours sera rapide, pour d'autres sera extrêmement lent, et qu'on a peut-être aussi des prétentions sur un process de réinsertion. Voilà. Je pense actuellement à un jeune. Pendant 1 an, on a vraiment travaillé avec lui sur le fait qu'il puisse trouver un emploi. Donc il n'a jamais travaillé, quelqu'un d'étranger, il y avait la question d'une autorisation du travail, etc. Il a eu un certain nombre de problèmes en cours de route, il a eu de la prison, des problèmes de santé. Enfin, au bout d'un an, il commence à travailler, et là, c'est quand même un choc, parce que ça peut réveiller... tellement de choses enfouies qu'il se retrouve confronté à une sorte de, lui aussi d'impuissance. C'était le rêve qui le conduisait. Il se rend compte que finalement c'est un travail qui est pénible, où il ne gagne pas beaucoup. Et ça joue sur une psychologie quand même en difficulté, et ça se termine par une sorte de décompensation psychologique. Donc le projet, c'était de se dire, on va conduire cette personne sur un chemin de réinsertion. Et puis finalement, ça le fait passer par des épreuves qui nous posent question. Est-ce qu'on a le droit de finalement, sans le vouloir, de conduire la personne sur un tel chemin ? Voilà. Bon, c'est une situation un peu limite que je décris. Et puis on ne manque pas d'espérance pour cette personne. Voilà. Mais on ne sait pas toujours ce que l'on va ouvrir chez l'autre quand on le sollicite sur un chemin de réinsertion.
Peut-être un point sur ce sujet. peut prendre d'autres questions, hein, mais je voulais rebondir là-dessus, parce que ce qui me frappe aussi dans vos deux expériences, c'est il y a une dimension, elle est différente dans les deux cas, mais il y a une dimension communautaire. Alors on peut décliner les choses différemment, mais on accueille dans une famille. C'est-à-dire qu'il y a un côté d'accueil familial d'un côté, et puis de l'autre côté, on a un accueil dans une communauté humaine qui essaye quand même de vivre, je dirais, une vie communautaire. Quelque part. Alors, dans les appartements de 8, puis dans l'ensemble de la structure. Je me demande s'il n'y a pas une originalité de ce type d'accueil, parce que d'autres expériences comme l'Arche, par exemple, de Jean Vanier, ou d'autres expériences comme Magdala, Lille, ou d'autres lieux de ce genre, la dimension communautaire me paraît un lieu important d'aide à la réinsertion. Je ne sais pas comment vous réagiriez par rapport à ça.
Je pense que c'est très important. Nous avons accueilli jusqu'à présent et suivi à peu près 130 jeunes, dont à peu près 40 ont obtenu le statut. Donc maintenant, démarrent leur vie en France. Et je dois dire que dans leur cas, l'insertion passe évidemment par trois choses. Tout d'abord, la confiance en eux-mêmes, qui est le fait d'avoir été porté par une communauté, par plusieurs personnes, développe. Deuxièmement, la connaissance des codes de la société, parce que il faut comprendre une société pour pouvoir s'y insérer, d'où le fait que la marginalisation volontaire qui est mise en place par l'État est quelque chose d'extrêmement nuisible. Et troisièmement, le fait de et qui est lié au deuxième point, le fait de ne pas ressentir la société comme hostile. Donc, d'oser avancer. Et les jeunes que nous accompagnons sont des jeunes, je dirais, qui traversent un moment de grande fragilité, mais plutôt lié au traumatisme de l'exil, qui a une fragilité de base qui y ramènerait de leur pays. Parce que non, ils arrivent dans des... Avant de partir, ils étaient des personnes souvent parfaitement insérées et qui allaient bien. Et je pense que c'est pour ça le fait d'avoir des différents ancrages, des repères, permet d'avancer et que justement le fait d'avoir autour toutes ces personnes permet de soutenir là où l'on a besoin d'être soutenu et par qui a la possibilité de donner ce dont on a besoin.
Étienne ?
Moi, j'aurais envie de dire une chose à partir de récits qu'on a eu l'occasion de travailler en groupe, des récits de personnes qui ont fait un parcours des réinsertions. Et ce qui nous frappait pas mal, c'est que apparemment il y a deux ingrédients vraiment, enfin, qui semblaient jouer beaucoup pour expliquer ces parcours des réussites entre guillemets. C'est d'une part des liens personnels, qui jouent le rôle de point d'appui. C'est-à-dire c'est des liens, quel que soit tout ce qu'on peut faire, les gens resteront là au rendez-vous et ils seront là pour nous appuyer. Voilà. Donc ça d'une part, et d'autre part la confrontation à des lieux plus disons où on est plus dans l'objectivité de choses à faire, à produire. Alors par exemple des personnes qui passaient par un atelier d'écriture, un groupe de théâtre, une entreprise d'insertion, vous voyez. Et dans ces lieux-là, il y avait une gradation, c'est-à-dire on commence pas tout de suite par un truc hyper difficile comme le travail par exemple. Ça, voilà. Mais dans ces parcours de réussite, il y avait un passage entre plusieurs de ces lieux de ce type-là, avec donc des contraintes qui à chaque fois auxquelles on est confronté, et qui mettent à l'épreuve, disons d'une certaine manière, la personne. Mais entre ces différents lieux-là, il y a comme un tissu conjonctif qui est formé par ces liens personnels auxquels on peut faire recours et qui sont comme des points d'appui. Voilà. Et là, il me semble qu'il y a un dispositif, une forme de dispositif de réinsertion, c'est une hypothèse que je dis, hein, une figure de dispositif qui pourrait être assez prometteuse. Voilà. Et je dis ça, c'est, en travaillant ces récits-là, c'est ce dispositif-là, on l'a vu à l'œuvre dans la diaconie du Var. Voilà. En travaillant plusieurs récits de personnes qui étaient passées par là, il y avait ça qui était apparu. Voilà. Donc je livre comme une sorte d'hypothèse.
Voilà. Oui, mais à condition aussi que la personne prenne conscience qu'elle a une véritable libération intérieure à conduire, parce que c'est ce qui me frappe de plus en plus, encore plus à Valgirose que dans la rue. C'est tout le sens d'ailleurs du nom de l'association, Au captif la libération, c'est qu'il y a vraiment une libération intérieure avant d'arriver à un chemin de réinsertion. Alors, sans doute qu'il faut mener tout en même temps, c'est pas en série, il faut mener ça en parallèle. Mais si la personne ne prend pas conscience de ce qu'il a l'enferme, de ce qu'il enchaîne, de ce qu'il a conduit à la rue, même si c'est peut-être parce qu'il avait perdu son travail ou que sa femme l'avait quitté, enfin que sais-je, mais ça c'était plus le point conjoncturel. Je pense qu'il y a vraiment, pour chacun de ceux qu'on accueille et chacun de ceux qu'on rencontre dans la rue, une véritable libération, encore une fois spirituelle, quelquefois bon, aussi psychologique ou psychique, mais de cet ordre-là, à mener avant de pouvoir d'avancer sur un chemin de réinsertion, puisqu'on le voit bien que quand on propose un logement, souvent les gens disent ah ben, dès que je vais être à Valgirose, je vais m'en sortir. Moi, c'est pas le cas. On propose un travail, c'est pas le cas non plus. Enfin, il y a un moment, il y a le logement, il y a le travail, et il y a toujours pas l'autonomie et la. Donc, il y a vraiment un. Et ça, c'est le mystère de la personne. Et donc ça prend du temps. Et puis, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, ni quelle forme. Et c'est là que ça devient complexe.
Oui, simplement, vous créez aussi des conditions pour que cette libération ait lieu, puisse avoir lieu.
C'est le but. Voilà.
Alors, il y a plusieurs questions. Oui,
merci. Moi, ma question, elle portait sur l'expérience spirituelle dont vous avez rendu compte les uns et les autres. Mais pour vous, Pascal et Pierre, parce que j'ai entendu une expérience spirituelle, en particulier des bénévoles, plus individuelle, marquée par le combat, mais marquée par le deuil par rapport à l'idéalisme, etc. Pas forcément marquée par le lien, alors que dans Welcome, alors que la vie ensemble est plus courte, il semble, d'emblée, vous avez parlé d'hospitalité, de relations, de monde qui s'échange, etc. Donc ma question portait sur, est-ce qu'il y a des liens quand même positifs qui s'établissent entre les bénévoles et les personnes accueillies dans ce vivre ensemble? Est-ce que justement les liens qui contribuent à la réinsertion, à la reconstruction des personnes qu'évoquait Étienne à l'instant, ça se vit aussi?
Alors avant de répondre, on va prendre peut-être plusieurs questions parce que je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Donc il y avait quelqu'un ici, puis là-bas. Note.
C'était une question à Isabella sur le fonctionnement. Combien de temps maximum les gens demeurent-ils dans votre dispositif? Je suppose que ça n'est pas 7 ans. Et donc, je voudrais que se fasse une comparaison avec ce qu'ont pu dire Pierre et Pascal.
Merci. Il y a encore quelqu'un là-bas, puis on va répondre. On va revenir, on a le temps.
Merci. Moi, je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs interventions. Et je remercie en tout particulièrement Pascal et Pierre sur leur témoignage pour Valgirose. Tu as dit tout à l'heure, Pascal, je reprends tes termes, un chemin de conversion douloureux, difficile, tortueux. Et pourquoi pas un monde nouveau qui est en train de germer au sens du livre d'Isaïe. Ce monde nouveau qui germe, ne le vois-tu pas déjà? Alors pourquoi un monde nouveau? Tout simplement parce que, en tant que bénévole, j'accepte, bénévole résident à Valgirose, je découvre mes faiblesses, mes limites, mes difficultés en toute humilité. Et je ne l'avais pas fait jusque-là, ce chemin de conversion. Et puis parce que j'accepte l'autre dans ses différences. Le public de Valgirose, il faut le savoir, chers amis, est un public qui vient de la rue, un public violent, un public très souvent atteint de troubles psychiatriques, il faut le dire. Les personnes de la rue, à hauteur de 30 à 40%, sont atteintes de troubles psychiatriques, parfois lourds, tout simplement parce que l'hôpital psychiatrique a fermé ses portes et que quand on n'a pas de famille, on est à la rue. Et donc, lorsqu'on sort de l'hôpital psychiatrique, donc un monde nouveau, parce que là, il se passe, là, on surmonte les uns et les autres, on surmonte les différences. Un monde nouveau parce que le lien s'établit entre le bénévole et la personne accueillie. Un monde nouveau aussi parce que je te fais confiance dans ta différence, dans ta faiblesse. On va pas tout de suite bâtir un parcours d'insertion, bien sûr, mais c'est quelque part en perspective quand même. Et pour moi, c'est bien sûr au quotidien forcément un chemin de conversion difficile, mais au-delà de cela, un monde nouveau en gestation dans notre société actuelle marquée par l'isolement, dans le cadre de la préparation de la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté, c'est ce qui émerge le plus. C'est vraiment l'isolement de ces personnes en situation de pauvreté. Et voilà que là, à Valgiros, et puis dans l'expérience de Welcome, le lien existe, la main tendue existe. Et c'est pourquoi j'aurais plutôt tendance à dire, à parler d'un monde nouveau, alors qu'il n'est pas facile de discerner, parce que la difficulté quotidienne existe. Mais soyons pleins d'espérance dans ce monde nouveau.
Merci pour votre témoignage aussi et votre question. Alors, peut-être, on va répondre à ces trois premières questions, puis on en prendra tout à l'heure encore. Peut-être le plus simple, d'abord Isabella, sur les questions plus pratiques, peut-être.
Pratique, oui. Alors, tout d'abord, j'ai amené quelques prospectus qui parlent de l'association et qui vous pourrez trouver à la sortie. Je n'en ai pas beaucoup, donc notamment si vous souhaitez vous engager dans le réseau. Alors, ce que nous faisons est de prendre un jeune qui est un jeune ou moins jeune, mais d'habitude les demandeurs d'asile sont plutôt jeunes, qui est à la rue, souvent depuis plusieurs mois, voire une année, qui est en procédure d'asile et qui devra attendre encore plusieurs mois, voire beaucoup plus, pour obtenir un hébergement. L'insérer dans... Alors, il est évident qu'étant à la rue, il n'arrive pas à prendre la langue. Il est de plus en plus plein d'angoisse et éventuellement de rancune envers la société. Il commence à aller mal. Il commence à avoir besoin d'un soutien psychologique, médical et tout. Et de le mettre en contact avec des familles ou des communautés. Et nous le laissons là-bas, le faisant changer de famille ou des communautés tout le mois, jusqu'au moment où nous le sentons plus stable, plus solide, et que, avec lui, en partenariat avec les associations et éventuellement avec le dispositif d'hébergement d'État, nous arrivons à lui trouver une autre solution. Parfois, cela prend un mois, deux mois. Parfois, ça peut prendre 7-8 mois. Il ne nous est jamais arrivé de garder une personne plus de 8 mois, parce que la personne, au bout de 8 mois, a toujours été stabilisée et a toujours été à mesure d'avancer toute seule. Disons aussi que nos familles sont des familles absolument normales, qui n'ont pas des compétences d'éducateurs, d'ex-psychiatres, etc. Donc, il ne nous arrive pas les cas les plus lourds. Donc, quelqu'un qui est totalement déstabilisé par des tortures, par un vécu épouvantable, ne nous sera pas proposé. Donc, c'est une situation un petit peu différente. Et une fois que les personnes sont sorties, ils sont donc dans l'autre lieu d'hébergement, mais ils gardent la relation avec les familles qu'ils ont connues. Et notre but, nous les changeons aussi, non seulement pour qu'ils se sentent toujours en chemin, mais parce qu'ils puissent connaître différentes personnes et aussi tisser des liens plus ou moins profonds selon les affinités. Des relations assez profondes, souvent, avec la personne qui a été le tuteur, c'est-à-dire un bénévole de l'association qui les voit une fois par semaine et qui fait un petit peu le fil rouge entre eux, les associations qui nous les ont envoyés et les familles. Et puis, les personnes qui leur ont donné des cours de français, tout cela. Mais vraiment, comme disait Étienne tout à l'heure, c'est une question de lien, de relation qui va ensuite les porter et qui va leur donner le courage d'avancer.
Et c'est un mois dans chaque famille. Alors, Il y avait deux questions là, qui vous étaient adressées, Pascal et Pierre. Est-ce qu'il y a des expériences spirituelles de liens positifs avec les accueillis? Bon. Et puis, n'y a-t-il pas un monde nouveau? C'est la même question, finalement. Comment répondre à ça?
Oui, bah heureusement qu'il y a des liens positifs qui se construisent entre les accueillis et les bénévoles. Parce que, bon, je pense à certains sur qui on a posé des regards d'espérance pendant un an avant, et bon, vraiment contre toute espérance. Et finalement, au bout d'un an, la personne a commencé à se mettre en chemin. Et bon, souvent, c'est des liens, effectivement, entre deux personnes. C'est pas tout le monde avec tout le monde, c'est pas dans tout l'appartement. Il y a des liens privilégiés. Il y a des liens privilégiés, mais plutôt entre deux personnes qui sont pas forcément d'ailleurs dans le même appartement. Donc ça, c'est aussi un des avantages d'une structure, c'est qu'il y a trois appartements de 8 personnes et on est dans un bâtiment indépendant, donc on peut aussi avoir des relations avec les gens des autres appartements.
Il y a des moments où tout le monde est ensemble aussi.
Il y a des moments où tout le monde est ensemble, puis on a une cour, on a même un jardin, on a même un potager. Donc, et quand c'est un peu insupportable dans l'appartement, on peut descendre et puis aller discuter avec quelqu'un d'autre, et ça, c'est important. Mais oui, il y a vraiment des liens qui se construisent et qui permettent aux personnes de sentir qu'il y a un regard d'espérance sur elles. Et souvent, ça donne des fruits, effectivement, un an après, quoi. Enfin, c'est pas immédiat, quoi. C'est quelque chose qui se construit de façon un peu mystérieuse et encore une fois contre toute attente. Alors, le monde nouveau, bon, bah oui, il germe, mais. Non, mais c'est vrai. Enfin, quand on est dedans, c'est compliqué de. Parce que nous, avec Chantal, on essaie de partir quand même un week-end de temps en temps à l'extérieur. Alors, dès qu'on part à l'extérieur, on a effectivement une vision un peu plus positive des choses. Mais quand on est dedans, on est pris dedans et c'est très très compliqué. On est pris dans le truc là et alors on voit qu'il n'y a que des trucs qui se passent, qui sont difficiles et tout. Et c'est vrai que dès qu'on part un week-end, on a une autre vision de. Donc je pense que quand on aura quitté Valgiros, là on aura plein de choses belles à raconter. Il faut attendre un peu, là on reviendra témoigner plus tard. Mais pour le moment, c'est vrai, c'est un peu. Bon. Mais enfin, merci quand même de ce regard d'espérance parce que ça nous montre que voilà. On est...
Pierre, tu voulais rajouter?
Oui. Cet accompagnement assez ardu, finalement, impose un rythme du temps qui parfois nous échappe. Voilà. Et que donc on n'a pas forcément la même notion du temps. La particularité de Valgiros donc repose, comme bien d'autres lieux, sur l'audace de faire se rencontrer des publics et des personnes complètement différentes qui jamais pourraient à la limite se croiser et se rencontrer. Donc je crois que là il y a une sorte de pari un peu fou à faire en sorte que des gens complètement différents, d'horizons différents, d'histoires différentes puissent se croiser et vivre ensemble. Je crois que ça, c'est une conviction et c'est un pari qu'il faut pouvoir tenir pour éviter justement ce sentiment de caste ou d'enfermement. Brièvement, ce qui peut caractériser le public que nous accueillons, c'est des personnes qui sont dans une mésestime d'elles-mêmes extrêmement profonde. Des personnes qui sont prises dans un sentiment de honte vis-à-vis d'elles-mêmes. Ensuite, ce sont des personnes qui, très tôt, ont pu être dans des ruptures de liens et il y a une sorte de méfiance vis-à-vis des autres et de toute institution. On dit aussi couramment qu'il y a un tiers des personnes qui sont à la rue qui viennent de l'ancienne DAS ou de l'ASE. C'est-à-dire que très tôt, étant enfants, elles se sont retrouvées dans des institutions ou dans des familles d'accueil avec pour le bien et pour le pire. Donc il y a aussi voilà, ça à en prendre en considération. Et la troisième chose, ce sont des personnes qui ont une immense difficulté à pouvoir se projeter dans l'avenir. Là aussi, on voit bien que c'est un manque de confiance dans les autres et dans leurs capacités. Et je crois que le travail que nous pouvons faire, c'est précisément travailler sur cette confiance. Et cette confiance, bien évidemment, ne peut passer que par le lien, que par la proximité, que par le collectif, par une dimension communautaire. Alors, certains accueillis vont être complètement réfractaires à ça, hein, mais il y a bien d'autres personnes qui aujourd'hui ont fait un chemin assez étonnant à cause de cette proximité, je dirais, pleine de vigilance et d'attention, qui a pu consolider en eux l'estime d'elle-même. Et ça, c'est un, je dirais que c'est une clé qui est tout à fait essentielle.
Oui, on peut dire aussi que par rapport à d'autres dispositifs sociaux, c'est quand même quelque chose d'assez unique de vivre avec des personnes qui sont en démarche de réinsertion. Je veux dire, ça n'existe nulle part. Il faut, je dirais, inventer ce genre d'expérience pour pouvoir en parler. C'est pas étonnant que ce soit difficile, je dirais. C'est même, on se met même toutes les conditions pour que ça soit dur. Mais justement, parce qu'on pense que c'est ça qui permet aussi à des gens de pouvoir avancer. Je crois que c'est l'expérience aussi. Étienne.
Simplement, c'était par rapport à votre question sur le monde nouveau, là. On pourrait se demander en quoi ça fait signe, ce genre d'expérience. Et moi, je crois qu'il y a un point très important que ça touche, c'est la question de la peur. Parce que les étrangers sans papier font peur. Et d'ailleurs, on peut être tenté de jouer là-dessus, hein, de jouer sur cette peur-là. C'est, politiquement, ça peut rapporter, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis, les personnes à la rue font peur. Et ça explique en grande partie l'isolement, parce que personne n'ose les approcher. Et alors, du coup, des gens qui vivent sous le même toit que ces personnes-là, alors d'un seul coup, on se dit « Ah, mais moi, je m'en faisais une montagne et tout. » Mais c'est possible, c'est quand même possible. Et du coup, je pense que ça vient, c'est comme une petite, vous savez, dans les grosses baudruches qu'on se fait de nos imaginaires, là, c'est un petit trou d'aiguille qui peut faire éclater la baudruche. C'est ce qu'on pourrait nous souhaiter de mieux. Ouais. Et ça, ça a un effet politique aussi. C'est un effet politique, ouais.
Merci. Alors, il y avait d'autres questions. Voilà. Ici, voilà.
En fait, Isabelle a un peu parlé de ce que je voulais dire. On a la chance chez Welcome d'avoir un public qui est très différent et qui n'est pas détruit, complètement détruit. Ce sont des gens qui ont décidé de partir de chez eux, qui ont souffert des choses épouvantables, des choses très dures, mais qui ont une ligne et qui veulent s'en sortir. Ils ont un espoir et ils ont un courage. Et je pense que ça les aide quand même à tenir en attendant, en vivant des choses très difficiles dans la rue, en vivant des choses très difficiles. Mais ils ont un espoir. Ils ne sont pas du tout détruits comme les gars qui viennent chez vous, en fait. Et ça, je pense qu'on a un public très différent.
Oui, oui. En tout cas, les blessures ne sont pas les mêmes. Oui, en
fait. Les blessures ne sont pas du tout les mêmes.
Mais en même temps, ils ne sont pas chez eux. Enfin, il y a d'autres obstacles qui demeurent dans ce public-là. Oui. Oui. Alors, oui, pardon. Vas-y.
Mais disons que leur capacité de rêver reste intacte. Leur capacité de s'imaginer, de projeter soi-même dans l'avenir reste intacte. Et c'est sur cela qu'il faut travailler et qu'on peut travailler.
Il y avait d'autres questions ici. Ou témoignages, ou je ne sais pas.
Deux questions. L'une, c'est quels sont les contacts avec l'État qui paye une partie de ce laboratoire qu'est Valgirose, d'une part, et quelle relation avec le territoire paroissial? Et ces paroissiens, bien sûr, quel regard est posé et quelles sont donc les conséquences positives qu'on imagine, mais pas forcément.
C'est une question qu'on pourrait d'ailleurs poser plus largement et aussi à JRS, c'est-à-dire quels sont les liens avec l'Église, avec les communautés chrétiennes, avec l'Église plus largement. Dans le cas de Diaconie 2013, c'est justement quelque chose qui cherche à se faire, ce lien entre des expériences de solidarité, de charité, et puis les autres fonctions ecclésiales, que sont la liturgie, ou l'annonce de la parole, ou la catéchèse. Donc, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il en est de ces liens pour ces deux types d'expériences. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres? On va répondre à ça déjà. Quel lien avec l'État, et puis alors après avec les communautés chrétiennes?
Tu répondras pour la paroisse. L'État, écoutez, cela sera simple. Nous sommes donc une structure tout à fait institutionnalisée, avec un financement donc d'État par un organisme qui s'appelle la DRIL, avec également une partie, au moins 5%, qui viennent de l'ALT. Donc ce sont des structures tout à fait, comment dirais-je, administratives, et nous avons à rendre compte une fois par an avec un rapport d'activité pour justifier le bon usage de ces subventions. Voilà. On espère que ce qui se produit depuis quelque temps, c'est une baisse des subventions. Donc nous essayons de convaincre les pouvoirs publics, et Marie Slépé s'y emploie, pour faire en sorte que notre enveloppe ne soit pas trop trouée. Voilà, donc ça c'est un objectif et une difficulté. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, brièvement, cela dépend des centres d'hébergement ou des institutions. Nous n'avons pas de prix de journée, nous avons une dotation globale. Ensuite, après, on peut ramener ça à un prix de journée pour voir où on en est, ou, comment dirais-je, dans les avances ou dans les budgets que l'on peut octroyer au niveau des appartements quand ils se prennent en charge pour l'entretien et de l'alimentation. Voilà. Mais nous sommes sur une structure qui reste encore aujourd'hui très large. Voilà. On ne sait pas comment ça va évoluer, et en effet, il pourrait y avoir ensuite une prestation à l'acte et donc rendre compte de la moindre prestation. Voilà. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là en ce qui concerne un CHS.
Alors, en ce qui concerne la paroisse, on est clairement sur un territoire paroissial, donc on se revendique de... Enfin, c'est Saint-Lambert de Vaugirard, en l'occurrence. Maintenant, les contacts avec la paroisse sont encore un peu ténus. On est considéré avec bienveillance, mais bon, il faudrait pouvoir constituer des liens entre les personnes qui habitent à Valgiros et puis les paroissiens. Bon, ça peut pas se décréter comme ça. Donc, l'ambition, là, par exemple, on s'est fait inviter par un couple de paroissiens pendant 3 jours chez eux. Voilà, ils nous ont accueillis. Et bon, au travers de petites expériences comme ça, et puis de repas partagés, par exemple le samedi à déjeuner, c'est de petit à petit créer des liens, avec l'ambition de faire inviter les personnes accueillies à l'extérieur par des familles, pour le coup ça peut rejoindre un peu l'expérience de JRS, pour que la personne soit invitée pour elle-même, et pas en tant qu'on n'y est pas à chaque fois encore constitué, Valgiros qui se déplace avec des bénévoles et des accueillis pour aller participer à un week-end. Mais que, voilà, avec des liens créés, la personne soit invitée à l'extérieur et qu'elle puisse avoir une expérience qui lui est propre, dont elle a envie de rendre compte ou de ne pas rendre compte. Alors que quand on se déplace, il y a toujours des bénévoles, des accueillis, et ils ont toujours l'impression qu'on est encore sur leur dos, si je peux me permettre. Donc. Mais c'est important que la personne, petit à petit, puisse retrouver une autonomie aussi relationnelle qui lui est propre et qu'elle peut vivre. Voilà. Donc, on compte beaucoup sur la paroisse pour ça, mais je pense que ça va prendre du temps. Et puis, on essaye de participer aussi aux grands moments liturgiques pour ceux qui le désirent. Et souvent, à Pâques ou à Noël, on est une petite, entre 15 et 20, à participer aux offices. Donc, c'est... Voilà. Et c'est souvent pour certains des occasions de... On en a une qui est très touchée. Alors on l'a emmenée à Notre-Dame plusieurs fois. Elle est très touchée par Monseigneur 23. Je ne sais pas pourquoi. Mais chaque fois qu'il parle, elle se met à pleurer. Et elle dit, je ne sais pas pourquoi. Et cet homme-là, il me fait pleurer. Bon, voilà. Donc...
Est-ce que vous avez des tables ouvertes aussi où vous pourriez venir, par exemple, de la paroisse?
Des choses. Alors, on a des tables ouvertes, mais pas au sens où n'importe qui peut venir, parce qu'on essaie aussi d'avoir un équipe, enfin, de faire attention à ce qu'on ne soit pas débordé par les gens qui viennent et que les personnes, du coup, qui sont là, ne soient plus chez elles. Mais parce que, alors, quand beaucoup de gens de l'extérieur viennent, ils parlent de beaucoup de choses et ils s'intéressent assez peu aux personnes accueillies. Et là, il y a vraiment un effort à faire pour s'intéresser aux personnes accueillies, avoir des conversations qui ne sont pas toujours... des sommets intellectuels et écouter un peu toujours les mêmes choses, mais ça, et quand on est invité extérieur, quelquefois on a un peu de mal du coup, on marginalise encore plus les personnes accueillies. Donc, on essaie de ne pas inviter trop de personnes en même temps et d'inviter des personnes qui ont envie de créer un lien qui va durer. On n'est pas là pour visiter un... Enfin, c'est, voilà, on vient pas regarder des personnes accueillies qui sont hébergées, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment pour créer du lien.
Merci. Isabella, JRS.
De la paroisse. Donc, notre réseau s'élargit essentiellement par capillarité. Donc, ce sont des personnes qui sont en contact avec des accueillants qui peuvent faire le pas d'accueillir à leur tour. Et certains de nos accueillants ont tenté de parler de notre projet dans leur paroisse. Mais là, il se passe quelque chose de très clair. Quand le curé est derrière et il y croit et il a envie que des familles participent, nous trouvons des familles. Quand le curé a d'autres préoccupations, voire il est profondément contraire à notre projet parce qu'il ne voit que le côté politique et il a peur que ça déplaise à certains de ses paroissiens, à ce moment-là, il ne se passe rien.
Merci. Oui, parlez dans le micro, sinon on ne va pas vous entendre. Merci.
Vous m'avez fait penser à un petit détail, mais que je crois très important. Quand on accueille quelqu'un chez soi, enfin c'est en tout cas mon expérience, ça lui donne la possibilité de cuisiner les plats de son pays et d'inviter. Alors elle n'invite peut-être que son hôte ou les amis de son hôte, enfin les connaissances, mais c'est quelque chose, c'est une toute petite chose, mais très importante.
Absolument. Je pense qu'il est très important de donner aux personnes qui sont accueillies la possibilité de rendre un petit peu cette hospitalité. On voit que dans la communauté religieuse, ils tiennent beaucoup à participer aux travaux de la maison, faire la vaisselle, dans les familles accompagner les personnes, faire les courses, porter les paquets les plus lourds ou cuisiner. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ils commencent à vivre comme si c'était chez des oncles et des tantes. Donc pour eux, c'est normal de rendre service.
Merci. D'autres questions, témoignages ou réflexions?
Je veux bien témoigner de quelque chose qui se passe à Lyon qui s'appelle le train de nuit. C'est un accueil pour SDF. Ils sont dans des bungalows, enfin une baraque de chantier, si vous voyez, et ils sont à 3 par bungalow. C'est une opération montée par le Secours catholique et Habitat et Humanisme. Alors, il y a des salariés sur le site et des bénévoles qui viennent, il y a 2 bénévoles chaque jour qui viennent pour partager un moment et servir et partager le dîner avec eux. Ce que je voulais dire, c'est que dans un premier temps, cette structure existait comme accueil de nuit. Et les bénévoles étaient en place à 17h, ouvraient la porte aux SDF, les accueillaient, ils passaient la nuit, servaient le petit déjeuner. Voilà. Et puis, après, ça s'est pérennisé. Maintenant, les personnes, les résidents sont là chez eux. Et finalement, c'est eux qui accueillent les bénévoles qui arrivent. Et c'est quelque chose qui, dans la mentalité des bénévoles, a eu énormément de mal à passer. Les très anciens bénévoles disent « Ah, c'est pas comme avant, c'est pas comme avant. » Et oui, c'est pas comme avant. Et il s'agit d'être et non pas de faire. Et là, c'est très déstabilisant. C'est une expérience aussi.
Merci. Voilà, oui, il y a encore une question. Ici.
Pour partager une expérience qu'on a faite il y a un peu plus de 5 ans, où on a récupéré une Camerounaise dans la rue, qui était sans papier et qui dormait dans la rue. Alors là, vraiment, avec notre cœur d'enfant, ou de dire, ben, vous n'avez pas de toit. Un jour, ma femme m'a appelé, elle me dit, ben voilà, ce soir, on va donner une chambre à cette femme. Et cette aventure a duré 6 mois, mais c'était une aventure voulue. En revanche, quand je vous écoute, je me rendais compte qu'on a été totalement démunis et on n'a pas su s'entourer pour l'aider sur ses démarches. Et aussi sur comment l'accueillir correctement. On parlait des plats, effectivement, on lui a demandé des plats. Et ma femme, qui est un non-sens de la tenue de la maison, c'est la première fois que je l'ai vue s'énerver parce que ça puait l'huile dans toute la maison, parce qu'elle s'est mise à vouloir nous aider sur le ménage et à grand soldo, comme en Afrique, elle lavait le parquet. Donc effectivement, cette notion qui a été abordée pas mal de fois, d'un peu de s'abandonner, de prendre un pas de recul, était très très juste. Et aussi, en revanche, il y a eu vraiment des choses très très belles où c'est sa culture africaine où elle, le soir, elle venait conter des histoires aux enfants. Qui était, je ne sais pas d'où ça sortait, si c'était de ses contes ou totalement de son invention, mais en tout cas, ça a marqué nos enfants à vie de cette femme. Malheureusement, bon, on est partis en expatriation et elle est repartie, on ne sait pas où, et on n'a aucune nouvelle. Voilà, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour l'aider à repartir dans son pays, parce que c'était son désir, mais elle nous expliquait qu'elle ne pouvait pas revenir les mains vides. Bon, il y avait tout un... Voilà, des choses assez classiques. Mais voilà, c'était juste un petit témoignage où on l'a expérimenté, on a expérimenté l'accueil sans avoir obligatoirement eu les outils pour bien le faire vivre à l'accueillant et à l'accueilli. Merci.
Merci. Je pense que l'expérience de JRS montre l'importance des réseaux de ce point de vue-là et d'un accueil un peu organisé qui avec un soutien aussi communautaire, alors soit dans une institution ou dans un groupe, soit dans un réseau de familles qui peuvent s'entraider et qui sont soutenues par une association en même temps. Bien sûr. Nécessité de la formation, oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. La nécessité de la formation de bénévoles, je dirais aussi d'avoir le courage parfois de dire non, ce n'est pas l'esprit de notre association, et donc d'orienter la personne vers quelque chose de différent. Alors je pense que ce qui est très précieux pour nos accueillis qui changent de famille est vraiment la présence de ce tuteur qui est un bénévole formé et qui peut l'assister aussi dans un processus d'insertion, dans toutes ses démarches, dans ses relations, dans la découverte de la ville. Donc la famille n'est pas toute seule. Et ensuite, même au niveau de l'attachement, c'est une relation à trois. Il y a la famille, il y a le tuteur et il y a l'accueilli. Et donc pour la famille, ce n'est pas trop lourd. La famille ne s'attache pas trop, ne se projette pas trop. Et l'accueilli non plus, il ne s'attache pas trop. Parce que voilà, ça passe toujours par une troisième personne.
On a la même chose dans l'association Solidarité Nouvelle pour le logement, où il y a toujours un accompagnement par deux personnes. Pour la même question d'ailleurs, pour éviter aussi une trop grande attachement personnalisant, disons, personnalisé. Voilà. Attendez le micro, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Avec ma femme, on accueille donc dans le cadre de JRS. Et une question qu'on a et que d'autres ont sans doute, c'est la question de la discrétion et en même temps de la connaissance de l'autre. Et ce n'est pas simple du tout. C'est-à-dire que là, on vient d'avoir quelqu'un qui venait de Géorgie. Alors, il y avait un problème de langue qui faisait qu'il ben, ne parlait pas un mot et qu'on ne parlait pas russe. Mais il y avait une question aussi. Il y a trois jours, on s'est dit, bon, est-ce qu'il a arrêté ses études à 9 ans ou est-ce qu'il a fait 9 années d'études jusqu'à 16 ans? On ne veut pas le cuisiner non plus. Le cuisiner au sens de... Pas tout à l'heure, mais d'accord, parce qu'on n'est pas là pour jouer les inspecteurs, on n'est pas une administration. Et en même temps, peu à peu, on est souvent mal à l'aise. Et par rapport à JRS, on aimerait un petit peu parfois en savoir un tout petit peu plus sur la personne, si JRS ou Welcome en sait un tout petit peu plus. Mais peut-être aussi que dans Val-Giros, il y a la même question. Qui es-tu? Dis-moi un petit peu qui tu es quand même, parce que pour se connaître, il faut que je te connaisse un tout petit peu plus. Et en même temps, ben, je n'ai pas à tout connaître de toi parce que tu as ton jardin secret et je dois le respecter.
Merci. Ce sera la dernière question. On va laisser répondre nos invités, puis je leur donnerai la parole pour terminer aussi.
En fait, c'est une question qu'on s'est posée dès le début parce que l'idée est d'accueillir l'autre tel qu'il est et de le laisser venir. Et l'on sait que si l'on pose des questions trop vite, la personne peut ne pas être prête à répondre ou bien peut donner des réponses qui, à ce moment-là, il pense être celles que l'autre veut entendre, qui ne sont pas les bonnes et qui le renferment dans une non-vérité d'où il aura du mal à sortir. Et puis, il y a des tempéraments très différents. Vous avez accueilli beaucoup de personnes, donc vous voyez comme il y a celui qui se livre tout de suite et celui qui vraiment reste insaisissable juste à la fin. Le but du réseau est, dans la mesure du possible, de le mettre en contact avec des personnes différentes, parce qu'après, il y a les professeurs des langues, il peut y avoir le psychologue, qui peu à peu arrive à reconstituer un petit peu ensemble l'image de la personne, mais là aussi, nous ne communiquons que les choses qui nous semblent vraiment indispensables et nous laissons la personne libre de dire ce qu'elle souhaite au moment qu'elle souhaite. Et il se peut que ce jeune qui vient de quitter votre maison revienne d'ici 2 mois et vous raconte plein de choses qu'il ne vous avait absolument pas dites ou qu'à un certain moment, il a envie de dire. Mais pour moi, au moment où j'accueille quelqu'un dans le réseau et que j'ai dit oui, je vais te chercher une famille, l'important est le désir de famille, donc le désir de partager la vie avec une famille française. Et puis le fait que je le sente adapté à la famille qui est disponible. Tout récemment, il y a ici la tutrice d'un jeune homme congolais que je viens d'accepter dans le réseau. J'avais une famille avec 3 enfants qui était disponible. Je disais, c'est magnifique. C'est Primo Levi qui me l'a proposé. Donc, c'est quelqu'un qui a été torturé, qui a vécu des choses très difficiles. Mais il me disait, il y a vraiment ce désir d'être entouré. Il ne faut pas qu'il reste seul et tout. Nous avons commencé à discuter et déjà au bout de 5 minutes, il commençait à me parler de tout ce qu'il avait vécu. Et je dis non, c'est trop dur. Je ne peux pas mettre quelqu'un comme ça dans une famille avec des jeunes enfants. Pas encore. Et c'est pour cela que nous avons aussi quelques personnes qui mettent à notre disposition une petite chambre à côté de leur appartement ou bien qui me sont très très utiles les communautés religieuses où donc la personne commence à rompre la solitude, à pouvoir parler, s'exprimer. Et ensuite, quand il ne sera plus dans ce ressassement continuel des mauvaises choses qu'il a vécues, puisse entrer dans une famille et là-bas commencer à être lui aussi quelqu'un qui raconte des choses positives, qui raconte ce qui se passe dans sa vie, qui a une quotidianité. Mais c'est vrai que c'est une question, et c'est pour ça que j'admire énormément les familles qui accueillent, parce qu'il faut un immense courage, et puis il faut vraiment se faire un petit peu violence, parce que c'est l'accueil, un accueil qui est totalement à l'opposé de l'accueil de l'invité, auquel on commence à poser plein de questions, ton pays, d'où tu viens, ta famille, c'est des questions qu'on ne peut absolument pas poser, parce qu'on risque de faire ressurgir des traumatismes et des choses très difficiles. Donc voilà, c'est un accueil, c'est pour ça que je dis, l'essentiel ne passe pas par les paroles, c'est le fait d'être là, ensemble.
Oui, on a parlé du renoncement tout à l'heure, il y a des choses difficiles. Vous vouliez encore... Mais je vais laisser d'abord répondre, parce que c'est sur ce sujet-là.
Oui, c'était sur l'accueil.
Alors, allez-y, encore une.
Ça va être très rapide.
Oui.
Voilà, je voulais juste témoigner, enseignant le français à certains des jeunes du réseau Welcome, que, en fait, l'accueil, je voulais remercier les familles qui accueillent les jeunes et qui s'en occupent, parce que moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est que l'accueil, il est aussi entre eux. C'est-à-dire qu'un jeune qui arrive dans le cours, il est très auto-centré, parce qu'il ne se sent pas très bien, et qu'une fois qu'il a été accueilli dans la famille et qu'il ressent une chaleur humaine parmi eux, eh bien, quand un nouveau arrive en cours, c'est lui qui va l'accueillir. Et ça, je trouve ça formidable.
Merci. Non, mais sinon, on est sur la même longueur d'onde, là, par rapport à l'accueil des personnes et aux questions qu'on ne pose pas. C'est-à-dire que nous, on accueille vraiment la personne comme elle arrive et avec ce qu'elle a envie de nous dire. Alors, pour certains bénévoles, c'est un peu frustrant, ils aimeraient bien en savoir un peu plus. Mais je pense que c'est très important de laisser les personnes. Donc, il faut avoir à la fois une attitude pas du tout questionnante, mais à la fois attentive pour quand même, si la personne a envie de parler, pouvoir l'écouter. Donc, non, mais je pense que parce que sinon, effectivement, on s'achemine vers des mensonges ou des non-vérités, enfin, inutiles. Et puis, même si on décèle des contradictions, ben, on met pas la personne en face de ces contradictions, on écoute ce qu'elle a envie de dire à ce moment-là. Et puis, elle a déjà raconté 500 000 fois à des tonnes de travailleurs sociaux toute sa vie que ça leur fait du bien de rencontrer des personnes qui leur posent pas de questions.
Je vais demander à chacun de nos intervenants s'il a un petit mot pour terminer, s'il veut dire rajouter quelque chose. Étienne.
Mais simplement, c'est une question. Parce que on voit là deux formes, deux manières d'agir dans la société qui sont assez nouvelles, finalement. On peut se demander, est-ce que ce ne sont pas des formes, on pourrait presque dire, de militantisme, il faudrait mettre des gros guillemets, qui sont en train de s'inventer, qui sont assez différentes des formes de militantisme qu'on a connues, parce que là, c'est très impliquant. Disons, les personnes sont vraiment en première ligne et acceptent de se laisser travailler elles-mêmes en même temps qu'elles travaillent, elles sont aux prises avec des questions qui concernent la société. Voilà. Alors, disons, ça, on pourrait se demander, est-ce que c'est une forme de comme ça qui est en train de naître, et peut-être qu'il y aura d'autres formes aussi, j'en sais rien. Ou, voilà. Mais en tout cas, ça me paraît une très bonne nouvelle. Voilà.
Mais en fait, quand on m'a proposé de devenir coordinatrice de ce projet, je me disais, bon, si au bout de la première année, on a trois familles, on est déjà très, très content. Et puis, finalement, on a aujourd'hui une soixantaine de familles en Île-de-France et plusieurs dizaines de familles dans les régions du pays. Donc, je pense qu'il y a une résonance, et je me dis que c'est une résonance de nature vraiment politique et sociale. Les gens, au moins beaucoup de personnes, en avaient assez de voir certaines choses, et en avaient aussi assez d'avoir peur, et qu'on joue sur leur peur. J'ai une famille qui m'a dit, bon, j'entends plein de choses, je ne comprends plus, maintenant je veux voir. Et c'est là qu'ils m'ont demandé d'accueillir quelqu'un. Donc oui, sans doute, ce sont des projets qui ont une portée, pour moi, très importante, parce que ça montre que la société, ça part d'en bas et que c'est par le bas qu'elle change.
Merci. Pierre. Moi, je voulais vous remercier. Enfin, je voulais remercier ceux qui m'ont invité à venir ce soir. Vous remercier de votre écoute, de vos questions. Ça m'a permis de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe. Ça m'a donné un petit bol d'air. Je vous promets d'être plus positif et d'essayer de déceler mieux ce qui se passe de beau et de ne pas regarder toujours ce qui se passe de pas bien. Voilà.
Je voudrais simplement faire écho aux propos d'Étienne Grieux et je crois que là on est dans la logique de la micro-réalisation et quelque chose de très très incarné. Et que finalement, au sens évangélique du terme, peut-être que ce genre de lieu de vie sont un peu comme des levains. Voilà. Alors on sait ce que c'est que le levain, ça fait fermenter, et on sait très bien que la fermentation est toujours un moment difficile à passer. Voilà. Mais au moins après, on se dit que voilà, il y a quelque chose qui pousse.
Voilà. Merci. Je vous avais compris que ces formes d'hospitalité nouvelles, 3 ans, hein, chacune des expériences, c'est tout neuf, que ces formes d'hospitalité nouvelles, ce sont aussi des lieux de conversion, des lieux de conversion personnelle. Ça nous oblige à changer notre regard, à entrer dans parfois un combat. Et je crois que, comme l'expérience de Zachée, c'est parce que le Christ s'invite chez nous que nous avons accès au salut. Je crois que c'est vrai des gens que nous accueillons. Alors merci à nos intervenants et bonne chance pour la suite.